Salut tout le monde, j'espère que vous passez de très bonnes fêtes et surtout que vous êtes bien installés au chaud pour écouter cette interview du meilleur joueur de poker français en heads up, c'est-à-dire le poker en tête à tête. Il joue des parties jusqu'à 50 000 euros la cave. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'il fait tapis et qu'il est payé, le pot au milieu fait 100 000. J'en profite bien sûr pour remercier tous ceux qui nous ont déjà rejoints dans les préventes de notre challenge Une année pour crush les MTT. On est plus motivé que jamais pour vous accompagner à fond en 2023. Pour ceux qui ont raté les préventes, et bah écoutez, c'est pas grave, il y a le lancement officiel qui démarre le 2 janvier, donc juste un petit peu de patience. Sachez que le lundi 9 janvier, on organisera un gros webinaire public, accessible donc à tous, pour vous expliquer en détail tout ce challenge. Je vais bien évidemment aussi répondre à vos questions en direct. Je vous embête pas plus longtemps et je vous laisse avec cette interview aussi inédite qu'incroyable. Eh ben bonjour à tous, vous avez peut-être pas trop l'habitude de me voir sur une qualité aussi HD, mais merci évidemment à Winamax et au club Pierre Charron de nous accueillir dans ce lieu magnifique. Et surtout, bienvenue à toi Boris, comment vas-tu ?
Salut Simon, ouais bah à fond, ça va très bien.
un grand plaisir de te voir, puisqu'on se connaît un petit peu depuis très longtemps, beaucoup plus depuis on va dire 6-7 ans, et c'est l'occasion de se voir une nouvelle fois en vrai. Je vais te présenter rapidement, tu me dis si tu veux m'interrompre à tout moment, et puis ensuite on ira un peu plus dans le détail. Donc si je dis pas de bêtises, on s'est connus via Kill Tilt, t'es un des premiers membres.
C'est ça.
Ok, en 2011-12.
Ouais, ça doit faire 11 ans peut-être, à peu près je pense.
Ça nous rajeunit pas.
Ouais,
tu étais très jeune à l'époque, 21-22.
21, ouais c'est ça, ouais. 20.
Ok, même. Et donc moi quand j'ai entendu un peu parler de toi, t'étais ami avec un bon ami à moi aussi. Et tu étais en NL 25-50, je crois, à l'époque.
Ouais, même plutôt 20, je pense, à ce moment-là.
Ok. Il se trouve que tu as fait du chemin depuis. On va y revenir. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est de parler de tout ton parcours à la fois, mais surtout ce que tu fais actuellement. On peut le dire, tu es joueur professionnel de poker, spécialisé dans le HU, ce qu'on appelle le heads up, le duel. Donc, tu joues en tête à tête. En très haute limite, spécialisé online, on va dire NL 50K, donc des tapis à 50 000 euros, c'est à peu près ça?
Ouais.
C'est ce que tu joues.
Alors, c'est ma plus haute limite.
Ok. Évidemment, ce n'est pas des stakes très, très fréquentes. Et on va essayer de présenter un petit peu tout ça. Donc, je vais te laisser te présenter déjà. Où est-ce que tu as grandi? C'est quoi un peu Boris, gamin, et puis son parcours jusqu'au poker?
J'ai grandi à Bourges, ancienne capitale du Royaume de Gaule, il y a fort longtemps. Petite ville, voilà, du centre de la France. Et je suis parti vers mes 19 ans à Montpellier pour faire mes études et continuer là-bas. Et voilà.
Ok. Rien de particulier, une enfance qui va bien, un étudiant qui va bien.
Études, pas spécialement. En France, ouais, ça allait. Études, j'étais pas le meilleur. Je calculais toujours, on va dire, pour avoir mes diplômes, etc., avec le moins d'efforts possible.
D'accord.
J'étais ce genre d'étudiant. Mais ça s'est passé sans trop de problèmes non plus, quoi.
Okay. T'avais pas de vocation particulière en tout cas?
Non, pas du tout. Okay. J'étudiais à Montpellier, du coup j'ai étudié l'anglais. Mais c'était juste par facilité plus que par vocation.
Je fais des études, je suis dans le rang des études et puis je fais ça parce que ça me tombe dessus.
Voilà, c'est ça. C'était là où j'avais des facilités, on va dire. Et du coup, je me suis lancé là-dedans, mais
sans conviction.
Sans grand rêve derrière par rapport à ça, quoi, on va dire.
Tu découvres le poker comment, du coup, live, online? À quel moment tu t'y mets un peu plus sérieusement aussi?
Je le découvre vers les 17 ans. Dans ces eaux-là, mon grand frère me montre ce jeu. J'aimais bien les jeux vidéo et tout. Donc voilà, je suis un peu curieux en play money, donc en argent fictif, quoi. Et je joue quelques parties avec des potes, voilà, la classique.
Bière, poker, quoi.
Voilà, exactement. Et je passe pas mal de temps à jouer comme ça, on va dire.
T'accroches quand même directement, émotionnellement, vraiment le kiff de suite ou c'est petit à petit que...
Non, j'accroche très vite.
Okay.
J'accroche très vite, mais sans... Comme j'accroche à un jeu vidéo très vite.
D'accord.
Quoi. Okay. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment de profondeur à ça. Au bout de, je ne sais pas, peut-être un an, je dirais. Mm-hmm. Un an et demi, je commence à voir, justement, c'est un peu à l'époque où j'ai découvert Kill Tilt, hein, donc c'est un peu lié à ça. Je commence à voir qu'il y a beaucoup plus de profondeur au jeu que ce que je pensais.
Tu découvres l'aspect vraiment stratégique.
Voilà, l'aspect stratégique, l'aspect mental, où je comprends que ouais, ça va beaucoup plus loin qu'un simple jeu vidéo. Mmh. Et ça me plaît, parce que ça donne une texture à tout ce nouveau monde en fait. Et là, je commence à me lancer un petit peu, à essayer de m'améliorer, quoi. Mais comme on fait un peu dans tout, donc je fais des petites recherches, mais à l'époque, il n'y a pas grand-chose. Et du coup, je suis un joueur de table de 2 euros pendant un bon
Cash
moment.
game en tout cas, tu
Cash
prends
game,
vraiment comme cash game. Même
cash
avec tes
game.
potes, c'était le cash game qui t'a fait découvrir ou vous faisiez des petits SNG?
Non, on faisait des SNG, On
D'accord.
faisait des SNG, mais bon, je ne saurais même plus dire, en fait. Du coup,
Ouais.
on jouait en cash game aussi, c'est
Ok.
assez flou à cette époque. Et je joue comme ça pendant peut-être 2 ans en tout, 2, 3 ans, avant de vraiment, commencer à y passer plus de temps, à être plus sérieux sur le sujet, à vraiment essayer de voir si j'arrivais à la limite du dessus, j'arrivais à la limite du dessus, si
À un
j'arrivais à la
moment, tu
limite
veux
du dessus.
gagner, tu veux un peu t'améliorer, performer, t'as plus juste envie de voir des cartes, c'est ça? Comment ça se passe au moment-là où tu prends un peu le jeu un peu plus au sérieux, quoi, justement?
Je dirais quoi, c'est le moment où, quand tu arrives dans une situation de jeu, et où tu es complètement perdu, et où à l'intérieur, je sais que si j'avais taffé un petit peu cette situation de jeu, bah peut-être je serais pas perdu à ce moment-là. Et
Ok.
du coup, c'est la recherche d'aller justement éclairer, on va dire, cette situation de jeu pour pas être ignorant, entre guillemets, quoi, sur cette situation de jeu. Et
Ok.
petit à petit, comme ça, je commence à couvrir de plus en plus de situations de jeu, sachant que dans le poker, il y a des situations de jeu quasi infinies, quoi, on va dire. Et du coup, voilà, c'est comme ça, petit à petit, en recherchant à l'époque, mais de manière archaïque, quoi, par rapport à ce qu'on
Ouais, bien
sait
sûr.
aujourd'hui et
Il n'y
comment
avait
ça
pas
se
les
travaille
solvers
aujourd'hui.
à l'époque,
Il n'y a pas de
évidemment.
solver, il n'y a pas beaucoup de forums, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Et même toutes ces vidéos et tout ne tiennent qu'à des mecs qu'on ne connaît pas, enfin, c'est assez abstrait
Ouais,
au
clairement.
final. En tout cas, pour moi à l'époque, c'était très abstrait, quoi. Donc je progressais, mais c'était vraiment archaïque, quoi, en fait.
Est-ce que à ce moment-là, tu as quand même une sorte de petit objectif en tête? Je dis n'importe quoi, tu vois, mais souvent ça peut être, ah, je rêverais d'atteindre 1000, 2000, 2000 euros de bankroll, je rêverais d'aller à telle limite, ou au moins arrondir mes fins de mois, me payer un bel écran. Enfin, est-ce qu'il y a un truc comme ça où tu aimerais juste être bien gagnant, mais c'est très flou, voilà, comment tu te situes en fait?
Bah ça, ouais, à l'époque où j'arrive à Montpellier, donc c'est justement quand j'ai à peu près 20 ans, 19-20 ans, j'étudie en même temps et je taffe en même temps.
Ok.
Donc
T'as un boulot à côté, tu
j'ai un
dis. Donc
boulot à
t'as un
côté,
petit
voilà.
boulot, la fac
J'ai un
d'anglais
petit
et
boulot, la
poker.
fac et le poker.
Ok.
Et je commence à voir en fait qu'au poker, je peux faire des gains. Alors c'est pas, il n'y a rien de mirobolant ou quoi, mais voilà, je vois que ça en rajoute un petit peu tous les mois. Et du coup, ça motive. Sans penser réellement de manière très précise à oh, j'aimerais atteindre ce site bankroll, ce site bankroll. Je suis juste content à ce moment-là d'avoir un extra que beaucoup n'ont pas, quoi.
Ouais. Mais en plus, c'est un bonus parce que t'as pas de stress financier, t'as ton petit boulot à côté, les études, tout va
Voilà, c'est
bien et
ça.
tu joues au poker, tu t'éclates, tu vois qu'il y a moyen de faire un peu d'argent, quoi.
C'est
C'est
ça,
bien.
ouais,
Ok, très bien.
exactement.
Écoute, on avance un peu, mais qu'est-ce qui à un moment te fait dire, bon, je peux peut-être en vivre, je peux peut-être passer pro, comment on fait cette passerelle-là à l'époque, bien évidemment, et puis tu restes jeune, donc comment tu le vis?
À ce moment-là, je vois en fait donc ma dernière année de fac, je vois que bon, je gagne un petit peu, et limite je pourrais juste vivre de ça. Sachant qu'en plus, je passe au moins la moitié, voire les 3 quarts de mon temps, pas sur le poker. Vu que j'étudie et que je taffe à
Clairement.
côté. Et à ce moment-là, en plus, j'ai 2 tafs à côté.
Ok.
Donc vraiment, j'ai plus beaucoup de temps, mais je passe quand même peut-être, je sais pas, on va dire 3 heures à la louche, je dirais, par jour. Et je vois que juste avec ça, je suis déjà pas loin d'avoir assez pour vivre.
Ouais, donc tu te dis si je fais que ça,
Je me dis, si
y
je
a
fais que
moyen.
ça, il y a moyen sûrement d'aller chercher un truc qui me permettrait d'être stable. Stable autant qu'on peut être stable dans le poker, bien évidemment.
Bien sûr, bien sûr.
Mais c'est à ce moment-là où je me suis dit, bon, je vais peut-être essayer. J'ai quand même terminé mes études, donc ma licence.
T'as fini licence 3 proprement, t'as ça
J'ai...
comme bagage,
Ouais,
quoi.
alors proprement, je sais pas si c'est le terme,
Tu l'as eu.
mais je l'ai eu, voilà, elle a été obtenue. Et derrière, je me suis dit, bon, maintenant que je l'ai. Je vais essayer 1 an, 2 ans, 3 ans en pro, donc en fait en faisant juste ça. Et dans le pire des cas, si ça se passe pas bien, je reviendrai avec ma licence et je verrai quoi faire, quoi.
Ok.
Mais la liberté qu'offrait le poker à ce moment-là par rapport à continuer des études, c'était le jour et la nuit, quoi.
Ouais, clairement. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Connaissant aussi ton histoire, j'aimerais que tu partages ça un peu aux autres. Tu fais ta transition, on va dire, joueur pro, ça se passe bien, tu vis du poker. Et à ce moment-là, il y a vraiment un déclic qui se passe dans ta vie. Quelqu'un qui t'aide beaucoup. Donc,
Tu vas peut-être pas non plus nous raconter ça pendant 3 heures, mais je sais à quel point ça peut être impactant. J'aimerais que tu partages ça un peu, que tu nous expliques comment on est deux joueurs pro qui vivotent, ou un peu plus, à vraiment s'épanouir à de plus hautes limites et tout. Donc si tu peux nous partager ça.
Ouais, ça a pris un peu de temps à arriver. 2 ans en Colombie. On est un groupe de potes, on est 5 à vivre à Bogota. On a installé un bureau, on va dire, où tous les 5 on grind dans le même espace, quoi, où tout est optimisé. Et un de ces mecs est un très bon pote à moi. Et j'ai vu son parcours en fait en un an. Moi, j'étais parti de Colombie pendant un an. Je suis revenu à Bogota. Et pendant cette période de temps, lui, c'est devenu un des meilleurs joueurs au monde de Heads Up.
En si peu de temps, tu l'as vu exploser,
Ouais,
quoi.
alors c'était
D'accord.
un bon joueur quand moi je suis
Oui,
parti.
j'imagine.
J'ai fait un tour, c'était un bon joueur, mais d'un coup il est rentré, voilà, top 3 mondial de Heads Up en un an. Donc bon, j'ai vu ça, ok, c'est un Scandinave, c'est un Norvégien, qui a une discipline de fer, qui a une hygiène de vie très carrée, et qui vraiment était une machine de taf. Et donc on taffait ensemble, moi je m'étais lancé dans le Heads Up, enfin on taffait ensemble, dans le même endroit. Moi je m'étais lancé dans le Heads Up, et du coup on discutait de temps en temps, et à ce moment-là j'ai compris que, enfin je commençais à comprendre certaines de ses explications, quand on parlait des mains, je commençais à comprendre la logique qu'il mettait derrière ses coups. Même si moi, j'arrivais pas à les exécuter par moi-même, je comprenais la logique et tout ça. Donc ça, c'était le premier déclic, on va dire, où en fait, je me suis dit, bah attends, mais en fait, je
Je
comprends le
pourrais
raisonnement d'un mec de
qui est
l'élite,
bien
quoi.
plus haut, je pourrais peut-être moi aussi appliquer ce raisonnement, enfin l'avoir et le prendre au table dans mes décisions.
Voilà. À ce moment-là, je comprends ça. Et le deuxième déclic où il y a vraiment eu un gros switch, c'est le moment, donc j'avance encore un peu dans le temps, mais en fait, ce mec me coach avec 2 autres personnes. Du coup, on est 3 à être coachés. Et le premier mois, ça se passe bien. Donc là, il faut bien avoir en tête que je suis coaché par un des meilleurs au monde, donc il y a une grosse attente de résultats de mon côté. Même si en réalité, moi, j'ai jamais eu de gros résultats à ce moment-là.
C'était enfin, pas dans ces dimensions, quoi.
Pas dans ces dimensions du tout. Dans des dimensions bien, mais pas du tout sur la même échelle, quoi. Et le premier mois, ça se passe bien. Les 2, 3, 4 mois qui suivent, ça se passe mal. Et du coup, là, moi, je suis pas très bien mentalement à ce moment-là. Et j'ai une grosse conversation avec lui. On a remis un peu toutes les choses à plat pour voir qu'est-ce qu'on pouvait améliorer, etc. Lui m'a bien aiguillé. Et en fait, après cette conversation, j'ai compris que lui, son hygiène de vie, sa discipline, les heures qu'il passait, parce qu'en fait, c'est un mec qui taffe plus de 200 heures par mois, tous les mois, au poker.
Vraiment régulièrement, sur
Vraiment.
une année, il fait ça, quoi.
Il fait ça. Il le tient pendant 12 mois, 200 heures par mois. Tout en ayant une vie équilibrée à côté. Et au début, moi, mon premier réflexe, c'était, moi, je suis pas du tout comme ça, c'était de me dire, oui, mais c'est parce qu'il est né comme ça, ou il a cette culture, parce que c'est un Scandinave, et qu'ils ont un peu ça dans le sang. Et en fait, lui m'a fait comprendre que non, moi aussi, je pouvais partir dans cette direction. Et du coup, j'ai commencé à faire des ajustements, etc.
Est-ce que
pour.
je peux t'interrompre? Excuse-moi, mais ça, c'est vraiment une de mes passions. Et j'aimerais vraiment que tu m'expliques. Comment lui, il a pu te faire comprendre ça? Est-ce qu'il t'est rentré dedans? Est-ce que toi, à un moment, tu lui as demandé, mais comment je pourrais faire pour faire ça? Comment, à un
Non, il m'est
moment,
rentré dedans, ouais. Il m'est
il t'a dit...
rentré dedans sur, en fait, moi, je sais pas, je devais jouer peut-être 100, 120 heures par mois à ce moment-là. Et quand on parlait de lui et de ses 200 heures, moi, je trouvais plein d'excuses, plein de raisons pour lesquelles, pour moi, c'était pas possible. Et en fait, sur chacune, c'était non, mais bullshit. Donc, voilà, il m'est vraiment rentré dedans. Il m'a challengé, en gros, à moi-même faire 200 heures par mois. Donc, le premier mois, c'était compliqué. Parce que d'un coup, j'avais juste la tête en feu de toutes ces heures de poker. Et petit à petit, j'ai commencé à m'ajuster. Et en fait, bah, c'est la seule façon pour arriver au haut niveau.
Et donc tu t'es fait violence, mais en lui faisant confiance. C'est-à-dire que
Voilà.
tu avais une forte confiance en lui, tu savais qu'il avait raison, et tu lui dis, bon, même si moi je sors violemment de ma zone de confort, je tais ma voix intérieure et tout, et je
C'est
t'aide,
ça.
je me tais et je l'écoute,
C'est
quoi.
ça, c'est ça.
Et
Moi,
je t'aide.
j'avais pas spécialement foi, on va dire, en ça. Par contre, j'avais complètement
Dans le
confiance en
process, ouais,
lui.
voilà.
Et dans le processus. Et du coup, je l'ai suivi. J'ai juste appliqué à la lettre ce qu'il m'annonçait, quoi.
Le premier mois devait être intense, non?
Premier mois, ouais, c'est
Émotionnellement.
très dur. Deuxième mois, c'est très dur. J'ai l'impression, parce qu'au début, moi, j'arrive pas du tout à avoir une vie équilibrée à côté. Donc, je voulais faire
En
comme.
Colombie, c'est ça toujours?
C'est
En
toujours en
plus?
Colombie, ouais, on est à Bogota, dans la capitale, et j'ai pas du tout une vie équilibrée à côté. Donc, c'est que du poker, que du poker, que du poker. Et ça se passe un peu mieux, mais c'est pas non plus des résultats qui sont super
Incroyable.
encourageants. Mais j'ai le déclic quand même à ce moment-là, au bout de 2-3 mois, où je comprends qu'en fait, ouais, je commence à voir que si je continue sur ce chemin, je vais m'améliorer. Je ne sais pas si j'arriverai à son niveau, et à ce moment-là, j'en doute et je ne l'ai même pas vraiment en tête. Mais par contre, je sais juste que le processus est bon et que je vais m'améliorer. Et en fait, c'est tout ce qui m'importe à ce moment-là. Donc là, je continue et je continue.
Et si je comprends bien, Il y a quand même un gros changement par rapport à avant. Tu t'y mets sérieusement, mais ça paye pas encore de folie et t'es pas encore en high stakes. Pour que les gens se situent, tu joues quelle limite quand même à ce moment-là quand tu te prends sous.
Là, à ce moment-là, je joue de la des tables de 200, 400, 600 $.
Ok.
Donc, où le buy-in, c'est à peu près entre ça.
Donc les blindes jusqu'au blind 3$, 6$, on va
Voilà,
dire.
c'est ça.
Six max ou heads up?
Non, que heads up là.
Que
Là,
heads up, ouais,
100%
d'accord.
heads up. Depuis des mois maintenant, je suis uniquement à jouer du heads up.
Et il y a quelque chose que j'aimerais avoir assez clairement en tête. Est-ce que lui, il a un but en tête en te prenant, en vous prenant ce petit groupe de joueurs sous son aile? Il veut vous emmener très haut ou on verra, c'est vos objectifs.
Non, lui, son but, c'est qu'on fasse partie des meilleurs au monde.
Et ça, c'est très clair pour toi?
C'est très clair. Mais en fait, il nous le dit dès le départ. Il nous dit, vous me rejoignez que si vous êtes prêts à devenir les meilleurs au monde.
Ok.
Et lui ne s'arrêtera pas avant ça. Donc nous, on se lance, mais les trois, on venait de limites basses. Donc même si quelqu'un me dit ça, c'est dur à mettre de la. Tu dis, bon, oui, je vais faire le taf. Mais tu sais pas réellement la distance qui te sépare de ça. Tu vois, c'est un peu abstrait. T'as pas vraiment
Bien
de
sûr.
texture. Donc tu te lances, mais ouais.
Et
Mais il y avait cette idée, ouais.
tu sens qu'il croit en vous et ça tire vers le haut ou c'est ambivalent? Parfois, ça te met aussi une grande pression quand ça se passe mal aussi parce que quand même, c'est pas évident quoi. T'as un mec qui peut te tirer vers le haut ou quoi et tu dis est-ce que je suis à la hauteur et avec tous les la variance que
C'est
ça.
ça, c'est ça. Ouais. C'est dur parce qu'en fait, t'as un mec qui te dit fais ça et tu vas y arriver. Mais bien évidemment, dans le poker, il y a de la variance et puis ça va te prendre du temps avant de réussir à exécuter certains points très techniques, de précision, etc. Et du coup, en fait, ça peut prendre beaucoup de temps. Et toi, inconsciemment, tu te fais un peu des idées de combien de temps ça va prendre. Mais en fait, tu peux pas. T'es que dans le faux. Dès que tu essaies d'avoir une idée du laps de temps que ça va prendre, tu peux pas deviner.
Oui, bien sûr.
Mais lui a ça en tête. Et du coup, nous, on devient juste des exécutants, quoi. On envoie le taf et les tâches qu'ils nous demandent. Et à ce moment-là, voilà, c'est tout. Donc, je me déconnecte un peu de la recherche d'être parmi les meilleurs mondes. Je me concentre juste sur les tâches que j'avais à faire au jour le jour, quoi, quasiment.
Oui, tu penses pas à la macro à plus tard, tu dis bon, de toute façon, tant que jour après jour, j'empile ce qu'il faut et je fais le
C'est
taf,
ça.
on verra. Encore une fois,
C'est
ça, c'est le
ça.
process et on verra où ça
C'est
te met.
ça, voilà.
Ok, très bien. Bon, je sais pas quel temps tu veux passer là-dessus, mais à quel moment, du coup, c'est le déclic enfin, c'est pas nécessairement un déclic, mais à quel moment tu commences à jouer vraiment en très haute limite? Donc, je l'ai pas encore précisé, mais il se trouve qu'actuellement, donc, ça, je l'ai dit, tu joues jusqu'à 50K en heads up online. T'es considéré par beaucoup comme bah, le tout meilleur joueur français en fait de heads up en cash game. Quel est le gap en fait qui t'a emmené de ça, donc NL 600 on va dire, avec ce mec qui donne tout, toi qui donne tout, et voilà, c'est là où tu en es maintenant en fait.
C'est le processus en fait que j'avais enclenché à ce moment-là, et où quand tu te lances dans ce processus, en heads up mais dans n'importe quoi au poker, plus tu avances, plus tu vois qu'il y en a encore à découvrir. Plus tu vois que le jeu est profond et qu'en fait tous les jours tu étudies et tous les jours tu découvres encore des nouvelles choses, des trucs que tu savais pas avant. Donc tous les 6 mois, tu penses que la version de toi il y a 6 mois n'était pas ouf quoi.
Ouais.
Alors que t'étais ok, tu jouais déjà des bonnes limites, mais tu dis ouais, j'étais quand même. La version de toi maintenant battrait très largement la version de toi dans le passé, tu vois. Et donc quand tu te rends compte de ça, bah, tu avances, tu avances, tu avances. Et petit à petit, bah, tu commences à jouer des plus hautes limites. Tu commences à jouer des plus hautes limites. Et du coup, bah, en fait, tu t'installes là, mais sans. Enfin, tu arrives sur des parties où en fait le niveau est si élevé que t'es juste. Ça te prend tout ton esprit concentré sur le jeu, sur la stratégie, sur qu'est-ce qu'il va falloir faire pour battre le mec en face. Parce que c'est du heads up. 98% du temps, tu joues contre un pro. Du coup, ça te demande énormément de focus, même si jouer contre des amateurs demande aussi du focus. C'est petit à petit. Et après, avec d'autres, voilà. D'autres points d'ajustement plus tard pour vraiment arriver au plus haut des plus hautes limites. Mais ça vient de ce moment-là, on va dire, il y a des années, où petit à petit, j'ai structuré mon taf pour toujours avancer vers une tâche qui est un peu infinie.
Et clairement. C'est très intéressant ce que tu as dit. On a souvent tendance à raison hein, à conseiller aux joueurs débutants et même jeunes professionnels de dire sélectionnez bien vos tables, concentrez-vous vraiment sur les joueurs récréatifs, c'est là qu'il y a le plus d'argent à prendre. Et même, tu sais, on appelait ça les bump hunters avant, ces joueurs qui allaient jouer
Ils sont toujours là, hein.
en heads up, mais contre des joueurs très mauvais et qui se focalisaient contre eux. Et moi, je me rappelle, je t'avais rencontré, donc c'était il y a 6 ans à Montpellier, et déjà, tu jouais sur Winamax des parties assez chères contre des très bon joueur, et je te disais, mais pourquoi tu te concentres autant contre eux? Tu m'expliquais tout le processus là-dedans. Cet aspect un peu contre-intuitif, est-ce que ça n'a pas été ça un des plus gros obstacles que tu as dû psychologiquement surmonter? Et si c'est pas le cas, ça a été quoi du coup, toi, le plus gros obstacle entre bah, être joueur pro qui se débrouille et commençait à arriver sur des très très hautes limites, NL 50 000, on, bah voilà, on met 50 000 euros sur la table contre des joueurs réguliers.
Ouais, c'était pas si contre-intuitif en fait, parce que nous, dans le groupe de travail où on était, notre seul objectif c'était de prendre tous les matchs possibles et de les gagner. Donc
Ok.
c'était vraiment,
C'était très clair, c'était.
c'était très clair, voilà, il fallait prendre tous les matchs qu'on peut et tous les gagner.
Alors, excuse-moi de t'interrompre. Ça veut dire, votre coach, il vous disait, là, tu vois, il y a un reg, tu le prends, et si toi, tu dis, ouais, mais je crois qu'il est plus fort que moi, il dit, mais on s'en fout, vas-y, va
Alors,
progresser, ou.
on avait, voilà, il y avait quand même une petite liste de.
De gens trop forts
Une
à
petite
éviter.
liste noire, nous on n'allait pas y aller, bien évidemment. Par contre, tous ceux qui n'étaient pas sur la liste noire, on va dire,
On les joue.
on les joue. Et il faut y aller, même si là on est légèrement derrière, on y va.
Faut affronter la difficulté et
On y va
progresser,
pour
quoi.
apprendre et pour se mettre en situation sans jamais se mettre en danger ou quoi. Mais voilà, vraiment y aller, y aller, y aller, hormis cette petite liste de mecs, sinon il fallait tous les jouer. Après, ça te permet de tenir ces tables-là. Donc d'avoir plus accès à possiblement des joueurs un peu plus faibles ou des récréas.
Oui, ça c'est le bonus si jamais il y a un
Ça, c'était
mauvais
le
joueur qui
bonus.
arrive.
Mais nous, le seul objectif, c'était de rentrer dans les matchs et de gagner les matchs, quoi.
Et de jouer tout le monde.
Ouais.
Ok. Mais du coup, ça a été quoi finalement ton plus gros obstacle dans toute cette montée?
Ça a été, je pense, la complexité du taf, couplée à l'endurance qu'il fallait sur le temps, en fait, où il fallait appliquer ce taf pour atteindre ces niveaux-là.
Le fait de persévérer, d'être régulier, de mettre cette intensité tout le temps, tous les jours.
Voilà, c'est ça. On est vraiment sur du taf de précision, c'est du travail d'orfèvre, quoi. Couplé aussi aux émotions, parce qu'automatiquement, quand on joue des parties comme ça va swinguer dans les deux sens.
Concrètement, ça peut être quoi? On finit la journée, on est à moins combien? Je sais pas.
Bah, à cette époque, une journée, ça pouvait peut-être être moins 10 000, quoi.
Ok.
Ça allait arriver des journées à moins 10 000.
Ok.
Et donc, à cette époque, il faut continuer, malgré ça. Pour moi, à taffer, à taffer, à taffer, non-stop, sans réellement savoir à quel moment les résultats vont réellement s'améliorer. Ça swing beaucoup, et en heads-up, vu que tu joues que des pros, tes win rates vont pas forcément être si élevés non plus.
Excuse-moi, je précise pour ceux qui nous regarderaient, win rate, on le dit très caricaturement, on va dire ton gain horaire, l'avantage que tu as sur les autres
Voilà, c'est
joueurs, on
ça.
va dire,
C'est
il n'est
ça.
pas si grand que ça, et donc ça engendre beaucoup de swing, de variance.
Voilà, plus l'avantage que tu as sur un joueur est faible, plus il y a de variance. Donc en heads-up, de temps en temps, tu joues des matchs extrêmement serrés. Donc là, il y a énormément de variance.
Ça peut aller très vite dans un sens ou dans l'autre, et
Très,
après.
très, très, très vite. Et tu peux te retrouver avec un joueur qui est gagnant de beaucoup contre un autre joueur, ou perdant de beaucoup, alors qu'en fait, ça ne veut pas réellement dire grand-chose. Donc là, ça devient dur mentalement de savoir, bah, à quel moment, en fait, lui, il est meilleur que moi ou non.
Ou est-ce que c'est la
Ou
variance
est-ce
qui
que c'est
fait
de la
que.
variance?
Parce que concrètement, en une heure, ça peut être quoi? Plus 10 caves dans un sens ou dans l'autre? J'exagère peut-être un peu, mais.
Ouais, on va dire que sur une période de peut-être 4-5 heures, ça peut être plus 10 caves d'un côté ou de l'autre.
Ok,
Ça arrive.
ça fait un delta
C'est
et.
rare, mais ça arrive. C'est pas impossible. Et
Ouais.
ça peut arriver plusieurs fois par semaine, admettons.
Ok.
C'est pas impossible. Du coup, en fait, tu dois continuer à appliquer ce taf, prendre ces swings, qui des fois vont être des swings négatifs, et continuer à retourner jouer ce mec, si tu penses que tu es gagnant. Et ça, je pense que c'était l'obstacle le plus compliqué, où vraiment il a fallu pendant des années continuer quasiment à ce rythme. Alors, de temps en temps, bien sûr, rééquilibrer, c'est pas que du grind à 300%.
Ouais, bien sûr.
Pour pas burn-out, bon, ce que j'ai fait à quelques moments,
Et j'allais te poser la
mais
question sur ça. Si c'est le moment, excuse-moi, du coup, j'y vais, mais toi qui, il me semble, t'aimais bien, comme tu l'as dit, hein, faire la fête, profiter aussi, avoir du temps libre, t'es quelqu'un de très sociable. Qu comment tu faisais? Parce que se détendre, faire la fête, c'est aussi une façon de décompresser. Comment tu faisais quand tu étais rentré dans ce gros volume de travail, cette grosse exigence avec toi-même, à récupérer quand tu es sur la brèche du burn-out, justement, à savoir quand ralentir ou quand il faut persévérer? On dit toujours qu'il faut persévérer, c'est vrai, jusqu'à un certain point où en burn-out, non. Donc, comment toi seul t'arrivais plus ou moins à t'écouter et à gérer cette pression, la redescente de
au
pression?
début, je ne savais pas. J'allais droit dans le burn-out et voilà, c'était burn-out.
Ça donne quoi? Tu es épuisé, tu te lèves le lendemain matin, tu n'arrives plus à
Ça donne,
regarder
ouais,
tes
c'est le
mains.
niveau émotionnel. Tu retournes aux tables le lendemain et dès que tu perds un, deux, trois, quatre petits coups, tu commences à sentir un peu que tu es affecté à l'intérieur. Alors qu'en fait, tu sais très bien que tu ne peux pas être affecté. C'est le poker. Tous les jours, chaque main est une nouvelle main. Et si tu perds juste des petits coups et d'un coup, tu sens que la température de ton corps commence à monter, moi, c'est ce qui m'arrive, bah, c'est qu'il y a un problème. Et là, tu es en gros burn-out, tu commences à avoir peur de certains matchs, tu commences à remettre en cause tout un tas de décisions que tu as prises sur les mains. Et là, tu as très vite fait de te perdre, en fait. Donc non, moi, j'ai burn-out ouais, plusieurs fois à ce moment-là. Et après, avec le temps, tu apprends, tu commences à te déceler un peu quand vont arriver les burn-out.
Tu t'es aidé tout seul ou t'as fait appel à des gens sur
Bah
ton
là, on
parcours?
est toujours ce groupe de potes. Et ça y est, on commence à vraiment optimiser notre environnement et à se connaître bien les uns les autres aussi. Ça fait à ce moment-là, je sais pas, ça doit faire bien 4-5 ans déjà qu'on pas qu'on vit ensemble, mais voilà qu'on est très bons potes. Et du coup, là, on a des chacun en fait a des retours des autres qui aident beaucoup dans ces moments clés.
Clairement.
Parce que là, si t'es tout seul, là, c'est très compliqué.
Du coup, il y a beaucoup de gens qui nous regardent ici qui doivent se poser cette question que je me pose aussi. Qu'est-ce que nous, on ne se rend pas compte, tu vois, de ce qu'on peut ressentir quand on joue? Donc là, je parle de ton quotidien, hein, maintenant, quand tu joues des heads-up à 50 000 euros la cave, que ça swing autant. Qu'est-ce qu'on ressent en jouant en high-stakes à ce niveau-là que peut-être nous, on ne soupçonne pas vraiment ou qu'on fantasme un peu trop? Et de quoi est-ce qu'on ne se doute pas? Qu'est-ce qui est si important à ce niveau-là, quoi?
Je dirais que c'est peut-être l'état mental dans lequel tu es quand tu joues les gros pots, les grosses décisions. Admettons un match comme tu le dis, tu joues quelques heures dans la journée, tu vas avoir peut-être cinq très grosses décisions.
Ah
Admettons.
vraiment? Il y en a 5 où c'est très intense, très vite.
5, 10, voilà, je donne un chiffre comme ça, mais entre 5 et 10 maximum. Où vraiment c'est les très gros
Tu
pots.
parles en termes de montant là vraiment
Je
ou de
parle en termes
difficulté
de.
décisionnelle?
De montant, où il y a.
Mettons cruciaux quoi.
Voilà, c'est les tapis, c'est les all-in. Le moment en fait où tu arrives dans ces situations, tu sais que ces situations-là vont avoir un impact très fort sur ton win rate, juste ces décisions-là. Et la différence entre un pro qui va la moitié du temps prendre la bonne décision, la décision parfaite dans ce moment, et celui qui la prendra beaucoup plus, là va y avoir un gap entre les deux.
Sur le long terme, ça sera
Là, il y aura un gros gap.
monstre.
C'est ce qui va faire qu'il y en a un qui sera un crusher, un top mondial, et l'autre qui sera juste en dessous des top mondiaux, quoi. Quand tu arrives dans ces pots, tu as une espèce de concentration où d'un coup, un peu, le temps s'arrête.
L'état de flow, le fameux état de flow.
L'état de flow, on peut l'appeler comme ça, chacun le décrit
Faut être dans
de
la
sa
zone.
façon. Moi, je le vois voilà, comme un moment où le temps s'arrête, et le seul truc qui compte pour toi, c'est de prendre la décision parfaite. Et du coup, tu es en train de réunir toutes les informations entre toi, ce que tu sais de cette situation de jeu, ce que tu sais de ton adversaire ici, ce que tu sais de lui, ce qu'il a fait avant, tu mélanges tout ça, plus des mathématiques, et tu dois arriver à la décision parfaite qui existe dans cette situation. Et c'est un état presque primitif, en fait. Très mathématique, mais à la fois très primitif, où tu es concentré, tu n'as plus qu'un seul but à ce
Bien
moment-là.
sûr.
Tu n'as qu'un seul but, c'est vraiment d'arriver à la décision parfaite. Et bah, de temps en temps, tu arrives, de temps en temps, tu n'y arrives pas. De temps en temps, tu prends la décision parfaite, et c'était la décision qui te fait perdre.
Mais elle était bonne quand
Ben,
même,
elle était bonne,
bien sûr.
donc ben, là c'est pas grave. De temps en temps tu te loupes, mais ouais, c'est une émotion très 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 spéciale. Ce moment où vraiment il faut pas se louper quoi. C'est sur cette décision qu'une partie de ton win rate va se faire. Pas tout ton win rate,
C'est crucial, quoi.
mais c'est
C'est
vraiment
crucial.
crucial quoi. Sur les petits pots, si tu fais des erreurs de temps en temps, ça va un peu moins se répercuter. Même si en vrai il faut aussi être dans cet état sur les petits pots, mais c'est là où littéralement tu sens ton cœur qui bat beaucoup plus vite. Tu sens la chaleur de ton corps à nouveau, tes yeux ont le laser focus, quoi. Cet état, il est très unique, je pense, à cette table.
Et c'est un kiff, c'est un
Ouais,
kiff.
c'est un gros kiff. C'est un gros
Ok.
kiff. Alors par contre, si tu enchaînes 20 décisions de suite où tu t'es
Ouais.
loupé, ça va être compliqué, parce que tu peux vite arriver dans un état de stress sur la prochaine grosse décision, à te dire, merde, j'ai loupé les 20 d'avant. Tu peux vite perdre confiance. Ça joue à peu de choses. Même en ayant taffé, même en connaissant la situation de jeu, ça joue à peu de choses. Parce qu'à nouveau, c'est du 1 contre 1. À quel moment tu peux être sûr que le mec en face n'est pas bien meilleur que toi? Si le mec en face, sur tous les gros pots, c'est toujours lui qui les gagne, tu commences à te remettre en cause automatiquement. Même si tu restes droit dans tes
Tu dis,
bottes,
il
même
a
si.
run good, là, il a juste de la chance, je suis sur la partie la plus forte de ses mains possibles et tout. Au bout d'un moment, tu es obligé de te dire, c'est
Au bout
peut-être
d'un moment,
moi
tu
qui
te dis,
me.
bon, est-ce qu'il n'y a pas un
Voilà.
problème quelque part que tu ne te rends pas compte? Parce que moi, je sais aussi que quand je joue un mec, bah, il y a des moments où c'est pas dit qu'il se rende compte de ce qui est en train de se passer. Donc ça peut très bien arriver dans l'autre sens.
Bien sûr.
Et cet état-là, ouais, est très très unique à vraiment ces gros matchs, ces grosses mains, où d'un coup, en fait, tout ce qui compte, c'est cette décision, quoi.
Dis-moi si je me trompe, Boris, mais ce que tu dis me fait. J'ai eu l'image vraiment tellement de fois dans la tête, ça me fait penser à l'intensité qu'il peut y avoir dans les gros tie-breaks d'un grand chelem, quand là, tu vois, il faut absolument breaker à ce moment-là, et on est deux au mieux, il faut absolument pas faire la double faute à ce moment-là, parce que ça peut juste changer et être la différence entre je suis champion, j'ai gagné tel grand chelem ou pas, et après, en plus, ça a un impact sur ta carrière, sur ta confiance, et ça me fait penser à ce genre de décision, c'est le genre de choses, tu penses?
Ouais, c'est ça.
Ok.
On peut donner plein d'images, celle-ci c'en est une. L'image du mec, du chasseur-cueilleur, il y a 2 millions d'années,
Qui joue sa vie.
qui joue sa vie sur le lion qu'il y a en face, et ils sont 5 et il faut abattre le lion. C'est la même image aussi, le tie-break. C'est ça, c'est des moments cruciaux, vraiment, il ne faut pas se louper.
Et évidemment, on peut penser aussi au joueur de tournoi qui, à un moment, il est en finale du
C'est ça.
WSOP Main Event et on lui demande son tapis et c'est, voilà, il
Exactement.
faut qu'il
Tu
prenne la bonne
arrives en table
décision.
finale, t'as sept mains qui arrivent, il ne faut pas te louper.
Mais est-ce que tu souffres pas du fait qu'il y ait un manque de focus sur le cash game en très haute limite, un peu un manque de reconnaissance, ou limite tu t'en
Non.
fous, t'es heureux d'être dans ta bulle et de faire tes
Non,
matchs? Parce que tu vois, cette passion, on la ressent pas, du coup, on a envie de l'avoir, on adore voir Nadal dos au mur qui doit absolument là breaker, on adore voir justement le joueur de tournoi. Le joueur de cash game, souvent, c'est assez solitaire, alors encore plus en heads-up, on n'a pas assez
ouais.
une vision, c'est un peu ce qu'on veut partager dans cette interview, mais ça te manque pas des fois de ne
Non,
pas être
non,
pour
ça
tes
manque.
parents ou quoi, tu vois?
Non, non, ça manque pas du tout. Après, on voit maintenant, par exemple, avec les tritons
C'est
séries,
vrai.
les tritons cash game, c'est un peu télévisé. Il y en a aussi aux États-Unis, des streams. Donc, il y en a.
C'est vrai.
Mais ça reste assez niche parce qu'en fait, il faut connaître le poker pour comprendre les émotions
C'est
que les
effectivement.
joueurs sont en train de vivre.
La tension, on la ressent pas facilement si on connaît pas très bien.
Voilà. Bon,
C'est vrai.
sauf si tu vois deux mecs se regarder. Clint Eastwood, le bon, la brute et le truand, pendant 3 minutes, tu comprends qu'il se passe quelque chose, mais tu sais pas vraiment quoi. Faut comprendre un peu la situation de jeu aussi pour comprendre ce qui se passe.
Bien sûr.
Alors que le tournoi, cet aspect qui automatiquement, c'est la sélection naturelle, il en restera plus qu'un. Donc il y a un côté très fort du tournoi qui automatiquement va plus le
Clairement.
médiatiser, là où il n'y a jamais eu sur le cash game, mais le cash game n'atteindra jamais cet
Ce
attrait, on va
format.
dire, ce format.
Hein.
Mais par contre, pour tous ceux qui connaissent le cash game, même le poker en général, ils arrivent à capter l'émotion
Alors moi, c'est un
et
peu
l'intensité, quoi.
précurseur, hein. On verra, peut-être je me trompe, excuse-moi de t'avoir interrompu. Je pense que si c'est bien fait, alors ça reste niche, parce que t'as raison, il faut comprendre le poker. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui marche très bien, même médiatiquement, c'est les affrontements, les duels.
Ouais.
Tu vois, il y a Galfond qui avait ça avec ses Galfond Challenge et tout. Alors, c'est
Ouais.
vrai que c'est niche, mais je pense bien médiatisé, voir des gros joueurs qui s'envoient des parpaings, des gros tapis.
Ouais,
Clairement, il
ça
y en a
tout de
un,
suite.
il prend 10 buy-in sur l'un, sur l'autre. Tu peux faire un
Ouais.
storytelling incroyable.
Ah, ça, c'est génial.
Moi,
Ouais. C'est dans
en
ces
tout cas, si
matchs-là que.
Netflix nous écoute ou d'autres, hein, veulent, moi, je suis sûr qu'il y a un truc incroyable à faire sur ça et qui donnerait une image du poker aussi plus un peu comme les joueurs d'échecs, quoi. Je veux dire, quand ils sont les
Ouais,
deux l'un
clairement.
contre l'autre, c'est incroyable, même si on connaît pas bien les échecs, quoi. Donc,
C'est ce qu'il y a eu avec Negreanu et Doc Polk. C'était
ouais,
le plus
exact.
gros
C'est vrai.
match des temps récents, on va dire. Et ouais, effectivement, c'est génial.
Bah
Tu
oui,
vois deux
c'est
mecs
super.
qui se mettent face à face. Chacun va appliquer une stratégie. Chacun a travaillé en amont. Vraiment, là, ils ont taffé, mais enfin, un niveau où les. Bon, Doc Polk était un des meilleurs au monde de heads up
Il y a longtemps.
quelques années avant ça. Negreanu est monté à un niveau. Je pense qu'il n'aurait jamais cru pouvoir atteindre en heads up. Et les deux se sont affrontés, je ne sais plus combien de temps ça a duré, mais vraiment pendant un long match, où en fait on pouvait voir qui passait devant.
C'est ça qui est cool. Il y a une histoire.
C'est qu'il y a une histoire, c'est pas juste un graphe qui part comme ça. C'est ça swing, tu voyais les émotions,
Bah.
il y avait des tweets qui sortaient. Ça, ouais, c'est la meilleure version de Cash Game. Et bon, bah moi ça tombe bien que
Bah.
je dis ça, c'est du heads up. Mais c'est vraiment ce qui donne le mieux, c'est deux mecs face à face. Qui se joue pendant des mois. Donc même s'il y a de la variance, à la fin, ça sera quand même très souvent
Le
le
meilleur qui
meilleur qui
gagne.
gagne. Même si ça reste du heads-up, si tu joues même 10 000 mains, c'est pas grand-chose non
Ouais, c'est
plus.
pas un échantillon énorme.
Ouais, même si un joueur est bien devant l'autre, sur 10 000 mains, il peut très bien perdre. C'est possible.
Ouais,
Et ça va arriver assez souvent même.
mais c'est bien, c'est le
Et
poker.
du coup, voilà, c'est
C'est
génial, c'est que ça
spectaculaire.
rajoute encore plus de rebondissements et tout.
Complètement.
Donc ça c'est le format ultime. Par contre, ça demande beaucoup de préparation. Donc c'est un
On va en
engagement très
parler
fort.
justement. On va
Ok.
en parler de la préparation si ça te va. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse la transition dans la tête d'un joueur professionnel de heads up, high stakes, que tu es, et que tu nous dises un petit peu. Bah déjà, on va parler de ce premier point de vue qu'on était en train de discuter. La variance, qui est finalement bah, sûrement un des trucs les plus difficiles à encaisser, à manager. Enfin, je pense qu'on n'en a jamais fini de devoir y accorder de l'énergie et de l'importance. Comment toi, maintenant, vraiment actuellement, quel rapport tu as à cette variance? Donc, pour ceux qui ne comprennent pas trop ce que c'est et qui découvrent. Cette notion, ce fait que ben voilà, il y a de la chance au poker sur le court terme, mais le court terme pouvant être comme tu l'as dit, même 2000 mains, mais 2000 mains, tu vas les jouer sur plusieurs jours parfois en heads up. Comment tu gères ça, les émotions qui vont avec, cette remise en question et même émotionnellement l'impact que ça a actuellement, quoi.
Ouais, la variance, moi je la vois un peu. Il y a un premier point au niveau macro, donc au niveau général. Donc la variance, ouais, c'est ça, c'est toute la part de chance qu'il va y avoir dans le jeu, celle qu'on va voir et celle qu'on va pas voir. Mais c'est un concept qui est très mathématique, dans le sens où on peut rentrer dans un programme, je vais jouer tant de mains avec, je pense, cet avantage sur ce joueur, et ça va te donner des simulations qui vont te dire, bah, ça peut arriver, ça peut arriver, ça peut arriver 3% du temps, 3% du temps. Etc. Donc il y a un côté très mathématique, mais il y a aussi un côté très abstrait, où en fait, toi, quand tu joues, C'est impossible que tu visualises bien la variance. C'est impossible.
C'est pas humain, on n'est pas fait pour.
C'est pas humain. Voilà, toi, tu vas toujours avoir des échantillons très 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 petits de quand tu joues ces mains-là. Alors qu'en fait, la variance, c'est sur des années. Et il y a toute une partie que tu ne verras jamais. Tu vois pas les cartes de ton adversaire. Donc en fait, juste regarder la variance quand tu pars à tapis, tu regardes la pointe de l'iceberg.
Ça.
Et derrière, tu verras pas quand toi, tu as eu une bonne main, mais que l'autre avait une main juste un peu moins bonne. Et ça se répète des centaines et des centaines et des centaines et des milliers de fois sur le long terme. Donc il y a un truc très abstrait à la variance qui fait que moi, je pense qu'il faut pas trop mettre d'énergie dessus, en fait. Parce que très vite, tu peux te retrouver dans des trucs à essayer. Ton jeu maintenant, c'est d'essayer de deviner où tu en es par rapport à la
Ouais.
variance. Alors qu'en fait, on s'en fout. Parce que dans tous les cas, sur le long terme, la variance, elle va faire ce qu'elle veut de toi. Tu
Et
n'es
tu peux
qu'un
pas la contrôler.
Grain de sable dans un océan, tu vois, qui va se faire balader par les vagues. T'as aucun poids. Voilà, moi c'est ma vision, c'est que la variance, faut la comprendre dans le sens mathématique pour jamais être en danger. Faut bien regarder les situations les plus extrêmes qui peuvent arriver.
Donc quand tu dis pas être en danger, c'est que voilà, tu sais que tu as X% de chances de perdre temps et
Voilà.
tu prévois ce pire scénario, un peu comme une gestion de crise anticipée pour dire, ok, oui, il se
C'est
passe
ça.
ça, comment je pivote, comment je m'adapte, combien il me reste d'argent, simplement pour pas
C'est
se
ça.
frotter.
Donc tu prends ce simulateur, tu lui donnes une situation, lui va te donner la pire des situations qui va arriver donc 5% du temps, vu qu'il te donne 20 simulations possibles. Et bien toi, cette situation, tu dois en faire ton état de confiance, on va dire.
Ton worst case scénario, en
Worst
gros,
case
va dire tu
scénario,
fais quoi, est-ce que
c'est
t'es prêt?
celui-ci. Mais il faut même anticiper un peu plus. Parce qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est que lui, il peut arriver, mais derrière, tu vas continuer à jouer. Et la variance, si elle veut, elle va continuer aussi elle, à t'amener encore plus bas.
Puis toi, peut-être tu vas perdre cet avantage que tu avais sur l'autre joueur. Ta simulation, elle est faite sur tel
Ouais,
avantage
bah,
estimé
là,
en plus.
généralement, il va
Alors
falloir sortir de ce match.
là, voilà exactement.
Là,
Mais
il
oui,
faudra
mais il faut
sortir du
savoir
match.
quand sortir du match.
Voilà, là, il faut savoir quand sortir et il faut prévoir plus large. Mais c'est très dur parce qu'en fait, c'est dur pour le cerveau de se dire, ah bah, ce qui peut arriver 5% du temps, je vais lui donner toute son importance. On a tendance à dire, bah non, 95% du temps, c'est autre chose qui se passe. Et il faut anticiper encore plus. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, moi, que je vois sur la variance en haute limite et en heads-up spécialement, pas spécialement, enfin, pas que en heads-up en fait, même en table de 6. C'est que dès que tu joues des hautes limites, bah, tu vas jouer un très petit volume, automatiquement. Donc tous les joueurs qui jouent des tables de 5000 et plus, ils jouent très peu de mains par mois. Très très
Parce
peu de
qu'ils
mains
jouent aussi
par mois.
un peu moins de tables, quoi.
Parce qu'il n'y a pas assez d'action.
Tout
Il n'y a
simplement.
pas assez de tables qui tournent. Donc tu n'auras pas tout le temps des tables qui tournent si tu joues que des tables de 5000 et plus. Donc automatiquement, en fait, on va dire, allez, pour donner des ordres d'idée, tu vas peut-être jouer entre 20 et 30 000 mains par mois. Chaque joueur pro a sa vision de combien de mains il faut pour pouvoir dire qu'on lise la variance et être sûr du résultat qu'on voit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va se compter en 1 an, 2 ans, 3 ans. Pour certains, ça va être 4 ans de ce
Un
type de
vrai
volume.
marathon quand même mental.
Donc c'est un marathon, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que vu que tu joues des limites hautes, tu es entouré de tous les meilleurs au monde aussi. En tout cas, ils sont tous là. Ce qui fait que l'avantage que tu as sur les autres joueurs, il sera que faible. Sauf vraiment pour quelques cas isolés qui peuvent dégager un profit plus large sur ces joueurs. Mais sinon, pour la majorité de tous les joueurs de ces limites, on parle de petites marges. De petites marges. Mais en fait, quand tu as une petite marge, c'est ce qu'on disait avant, tu es ultra exposé à la
Ah,
variance.
bien sûr.
Du coup, tu peux passer 1 an, 2 ans à jouer à une limite où tu vas être soit légèrement gagnant, soit légèrement perdant. Et tu vas prendre une décision, en fait, où tu vas te dire, bon, bah, je suis légèrement perdant sur cette limite ou je suis gagnant sur cette limite. Et tu vas en faire un état de fait. Tu veux dire que ça, c'est la réalité. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Pas du tout.
La variance a joué son rôle,
La
quoi qu'il
variance a
arrive.
joué son rôle. Et sur 2 ans, tu joues peut-être une limite, t'es peut-être légèrement perdant, alors qu'en fait, t'es un joueur gagnant. Mais toi, tu vois les résultats, tu dis, bah non, moi, je suis pas gagnant sur cette limite.
Qui plus est, légèrement perdant ou gagnant, c'est un delta énorme quand on joue 50 000 euros la cave, 25 000 euros la cave, parce que ça peut faire quand même
C'est
vite.
des différences de plusieurs centaines de milliers d'euros sur des résultats à l'année. Mais on parle davantage de
Très
marge
fin.
très, 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 très fin, qui fait qu'un joueur. Et ça peut être dangereux dans les deux sens, parce que ça peut aussi être le cas, et ça arrive très souvent, de joueurs qui va jouer une limite, et qui va gagner pendant 6 mois, une nouvelle limite, et qui va se dire, ah bah je suis un joueur gagnant de cette limite, je vais rester à cette limite, je suis un joueur de cette limite. Alors qu'en fait, non, il n'a pas forcément le niveau. Et à quel moment, en fait, tu découvres que tu n'as pas le niveau quand pendant 6 mois, tu étais gagnant sur une limite?
Puis tu peux être dans le déni très facilement. Si tant qu'absolument
Extrêmement
ton
facilement.
identité et tes
Ouais.
compétences sur quelque chose qui est biaisé, tu vas mettre beaucoup de temps à rétro-pédaler
Tu peux y
et à
mettre des
prendre.
années. Tu vois ça très souvent, des joueurs qui, dans les deux sens, n'ont pas réellement idée d'où ils sont par rapport aux tables qu'ils jouent.
C'est dur, hein, il faut le dire, c'est dur de se
C'est
situer,
extrêmement
hein.
compliqué. C'est
Tu fais
extrêmement
comment?
compliqué.
Tu fais.
Si tu n'as pas de retour extérieur là-dessus, c'est extrêmement
J'allais te
compliqué.
demander ça, tu essayes de régulièrement faire un peu un audit quasiment de ton niveau de jeu avec ton coach ou ton entourage de
Voilà.
joueurs?
Là, j'ai plus de coach depuis 3 ans à peu près.
Est-ce que tu ne considères pas que tu as des coachs informels, le fait de parler de stratégie avec d'autres joueurs très très haut, c'est pas pareil quand même?
C'est pas du coaching, c'est différent. C'est des conversations, on parle du jeu, on parle de main.
C'est
C'est pas
plus le mentor coach qui est derrière toi.
du coaching, ouais, c'est vraiment différent. Le coaching a une intensité directe à lui,
Ouais.
liée à lui, qui
C'est
fait
un
que t'es différent.
rapport.
Mais là, ouais, ce que je fais, moi, c'est que dans mon entourage de joueurs, bah, on parle, on s'évalue un petit peu les uns les autres. C'est pas, on se pose pas autour d'une table. Bon, alors je suis comment? Ça se fait de manière naturelle. Mais on arrive un peu, bah, par exemple, si un joueur a compris un truc dans une situation que moi, j'avais pas capté. Bon, bah là, et si ça se répète 10 fois, je vois que peut-être faut que je fasse attention. Donc, c'est un peu comme ça, moi, que j'essaie de faire pour savoir où j'en suis, en prenant le temps, vraiment prenant du recul avec mes résultats. Vraiment, vraiment prendre du recul avec les résultats. Moi, c'est un truc que je fais, je regarde pas mes résultats.
Sur combien, quelle période du coup?
Là, je les ai pas regardés depuis janvier, par exemple. Donc, on est en septembre.
Ok.
J'ai jamais cliqué refresh sur le graphe qui me donne mes résultats. Alors, j'ai une idée. J'ai déjà regardé sur des périodes courtes. Mais je regarde pas sur une période longue pour ne pas me faire
Un peu
influencer
t'influencer.
par des trucs que je juge pas
Pas
spécialement fiables
pertinent.
ou je l'ai vu par le passé, ça allait m'amener soit en excès de confiance, soit le contraire.
En fait, la data n'en est pas une parce qu'elle n'est pas fiable à ce moment-là. Donc, tu attends que
Voilà.
la data, la donnée de tes résultats sur une période, tu l'estimes assez pertinente pour
C'est
éventuellement
ça.
l'observer, prendre du recul
C'est ça.
et te
Et
positionner sur ton niveau de jeu derrière, quoi.
en fait, avec ça, moi, je vois comment je me sens à la table. Vraiment comment je me sens à la table par rapport aux autres joueurs pour sentir si je dois jouer cette
Et
table ou
c'est
pas.
ça qui
Et
est utile
je
finalement.
me suis planté plein
Oui,
de fois.
certes.
J'ai joué des tables où j'aurais pas dû les jouer.
Mais ce sera
Ça
plus
m'est arrivé.
pertinent que ton résultat financier sur 3 jours, de toute façon.
Exactement. Mais même un résultat financier sur 6 mois.
Oui.
Donc si tu joues que des tables. Alors moi, c'est pas mon cas, je joue des tables de 2000 et plus. Mais du coup, je joue des limites qui sont extrêmement wide,
Oui,
large.
là.
Du coup, en fait, si tu as de la chance sur tes limites les plus hautes et pas sur tes limites les plus basses, ou le
Et
contraire,
ouais.
tes résultats veulent rien
Ouais,
dire.
c'est pas pertinent du tout. Il faudrait le
Veulent
voir
rien
en
dire.
blinde et puis voilà, en
Il
fait.
faudrait le voir en blinde, mais du coup, c'est pour ça que moi, je me détache des résultats.
Ok.
Parce que si d'un coup, j'ai de la chance sur ma limite la plus haute, donc la 50 000, et
Tu run bad sur des toutes plus,
je
enfin
run
beaucoup
bat
plus petites.
sur ma limite de 2000, bah, mes résultats vont être magnifiques. Est-ce que ça veut dire
Ouais.
que j'ai le niveau, que j'ai bien joué, etc.? Pas forcément. Donc c'est pour ça que voilà, moi je me détache et
Ou
je.
comme le joueur de tournoi qui est plus ou moins perdant au break-even, il fait son fameux one time, il
C'est
fait une
ça.
grosse perf et
C'est
d'un
ça,
coup
c'est
il
ça.
paraît super up avec un ROI incroyable, mais ça
Ouais,
n'est pas
alors qu'en
pertinent,
fait,
quoi.
pas forcément du tout.
Exactement. Et cet entourage-là, du coup, tu y accordes quelle importance maintenant, quelle importance il a eu par le passé? On le répète tout le temps, c'est évidemment vrai. L'entourage est vraiment capital. Mais toi, dans ton aspect pro et perso, comment tu gères l'entourage justement pour rester extrêmement performant? Quand même, c'est en fait, bah, t'es un athlète de très haut niveau finalement. Hein. C'est comme un athlète de très haut niveau à ce niveau-là. Donc, quelle place tu y accordes et comment tu sais trouver un équilibre là-dedans, quoi?
Moi, c'était primordial, c'était nécessaire. Au début, quand je suis parti de France, donc je jouais des petites tables, au moment où j'ai joué des tables moyennes, pour continuer à monter, c'était primordial. C'est-à-dire que c'était un retour constant. On était dans un environnement poker constant avec ces mecs. Et du coup, en fait, tout ton esprit sur le poker non-stop. Et tu as des retours de joueurs meilleurs que toi, de joueurs un peu moins bons. Et du coup, ton cerveau, inconsciemment ou même consciemment, analyse toutes ces datas pour essayer d'avoir toujours une vision du jeu plus précisée, plus précisée, plus précisée, plus précise. Ensuite, avec le temps, donc moi là maintenant, ça fait 3 ans à peu près que j'ai plus de coach, mais je suis toujours dans un entourage de joueurs qui jouent les mêmes tables que moi. Ça te permet de pouvoir parler en fait de tes situations à quelqu'un qui va un peu comprendre avec précision quand tu parles de maths, quand tu parles de chiffres, qui va bien comprendre ta réalité. Et donc ça te permet d'avoir des retours très objectifs. Surtout que bah, en fait, à ce moment-là, ces mecs autour, c'est que des potes. C'est limite, c'est que des petits groupes de potes qui sont un peu soit qui vivent ensemble, soit qui vivent
Et
pas
c'est
du tout
pas un
ensemble.
entourage juste intéressé pour être performant, ça devient et des potes et des partenaires de travail. Enfin, limite, c'est le meilleur fit possible, le meilleur équilibre possible qu'on peut avoir
Ouais,
dans une
c'est ça.
relation. C'est on s'éclate au boulot, c'est utile pour notre carrière et on kiffe aussi
C'est ça.
le lien
Après, on
social.
est même plus. Enfin, on parle par plaisir des mains.
Oui, c'est ça.
On parle vraiment purement par plaisir du poker et de nos mains. On kiffe voir ce que l'autre pense de cette situation de jeu. Moi, mon avis, lui, le
N'y a pas un
sien.
côté, je vais garder les profits pour moi, les informations pour moi, dans ce
Alors,
groupe-là, en tout cas.
dans ce groupe-là, non. dans ce groupe-là, non.
Bon,
Voilà.
c'est concurrentiel quand même, parce que les autres peuvent savoir sur toi ou pas. Évidemment, c'est de la data qui va pouvoir
Ouais,
permettre
ouais,
de
ouais. Non,
t'exploiter.
mais
Donc.
bien évidemment, à ces niveaux-là, il faut faire très attention à ce genre d'informations.
Ben.
Mais là, dans le cercle extrêmement restreint,
Ta
qui est un cercle
confiance
très très
et.
proche, là, il n'y a pas de problème. Et du coup, ouais, tu as toujours ce retour de l'entourage qui te permet, dans les situations compliquées, surtout, c'est là où en fait, il prend tout son sens, l'entourage, c'est quand tu es dans les gros downswings, donc dans les grosses périodes de pertes, où en fait, beaucoup de joueurs ont tendance, je pense, moi j'étais le premier et je suis encore le premier, à penser qu'on peut encaisser des downswings qu'on ne peut pas encaisser, émotionnellement. À se dire, ça, je peux encaisser ce type de downswing parce que j'ai connu le même upswing. Donc le contraire, j'ai connu ce montant de gain, donc je peux encaisser ce montant de perte. Non, la perte fait beaucoup plus mal au cerveau humain que le gain. Et du coup, en fait, on surestime, c'est la tendance naturelle à surestimer. Et donc ça fait mal. Mentalement, ça fait mal ces moments-là. Donc d'avoir ton entourage autour, poker, qui connaît aussi ses swings, qui lui aussi, chacun est passé par un swing qui lui a toujours fait un peu plus mal, parce qu'il arrivera toujours. Ça t'aide à garder le cap et à pas remettre tout ton jeu en cause, etc., quoi.
Tu décris un peu émotionnel, toi, à la base, en tout cas quand tu l'étais avant de découvrir le poker, ou non, plutôt stable émotionnellement et résilient de base.
Dur à dire, je dirais émotionnel, mais dans le poker, j'ai toujours gardé assez de distance.
Ok.
Mais c'est vraiment après en étant au contact de joueurs de très haut niveau, où je les ai vus visuellement, réellement, physiquement en train de jouer. Et je voyais comment ils géraient leurs émotions, où j'ai eu quelques switches avec le temps, où maintenant je mets beaucoup de distance avec le poker en termes d'émotions. Je
C'est quoi
vais
ce genre de...
pas réellement, je vais pas facilement me faire embarquer dans une émotion du jeu.
Ok.
Ça arrive encore, parce que c'est le jeu,
Et bien sûr.
mais voilà, avec quand même pas mal de contrôle, je dirais.
L'impression que tu marches vachement par mimétisme et que tu es un peu presque une éponge à ce niveau-là, dans le bon sens du terme. Et quand tu dis j'ai un switch, je vois comment les autres réagissent, on dirait presque que tu l'absorbes et puis voilà.
Ouais, c'est un peu ça. Hein.
Mais. Comment? Parce que tu vois pas leur vie intérieure. En tout cas, tu vois sa réaction, tu vois son attitude et tu dis, je vais essayer d'avoir la même. Et puis, tu t'en inspires et
Alors là,
parce qu'en
je.
général, c'est pas si évident. On aimerait tous être aussi serein que X, mais quand on est dans la situation, bah, on n'y arrive pas nécessairement. Comment tu navigues là-dedans? Enfin, est-ce que tu y as
C'est
peut-être
une
jamais
très bonne
réfléchi
question,
déjà?
ouais, j'ai jamais réfléchi. Moi, voilà, je fonctionnais par
Tu
mimétisme, comme
t'inspires,
tu
tu
dis,
dis, il
donc
fait comme
je le
ça.
vois en face. Et je vois son émotion, je sais pas, j'essaie de me calquer sur la même
C'est ça,
émotion
ouais.
moi quand je joue, et
Tu es
je
un
vois que ça se passe.
absorbeur, tu absorbes le mindset des autres.
Un truc du style, ouais, je sais pas.
Comme celle qui absorbe les techniques de
Voilà,
Sengoku,
ça me plaît,
une
cette idée.
référence de boomer. Bah, du coup, ça nous fait une très bonne transition. Bon, non pas Dragon Ball Z, peut-être pour une autre fois, mais l'hygiène de vie. Moi, je suis un peu obsessionnel là-dessus, mais j'ai l'impression que c'est capital et constamment sous-évalué. C'est-à-dire que les gens disent oui, c'est vrai, ce serait sympa de faire du sport, de bien dormir, bien manger, pour peut-être plus tard, ou ils le font 2, 3 jours. Quelle place ça a pour toi et comment tu as évolué là-dessus, sur l'hygiène de vie?
Moi, je vois ça en fait. Donc, comment gérer les émotions? Je pense qu'au début, on est tous, et quand on grandit, on a tous un peu un bagage de notre gestion émotionnelle qu'on a quasiment de manière innée, mais que derrière, tu peux avoir un impact sur les émotions en justement avec en prenant ce type de, enfin, en t'orientant sur tous ces thèmes. Donc, tu peux travailler que tu as eu de manière innée, tu peux réellement avoir un impact quasi biochimique, quoi, en fait, si tu veux. Alors, avec des degrés de. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas faire ça automatiquement que d'un coup tu vas devenir bon émotionnellement, enfin que tu vas avoir le contrôle de tes émotions. Moi, je donne beaucoup d'importance à ça. Et je vois qu'aujourd'hui, dans le monde des high stakes, bah, la réalité, c'est quasiment tous les joueurs donnent une importance à ça.
Ça se
C'est-à-dire que.
professionnalise énormément, hein, je pense, non?
Ouais, ouais,
De
ouais.
toute façon.
C'est que professionnel maintenant. C'est très rare de voir un dégène, un joueur complètement fou qui a pas de discipline et qui n'a pas une optimisation, on va dire, de son environnement et de lui-même.
Tu peux pas, ouais.
Ça n'existe
Tu
quasiment
peux
plus.
pas,
Ça
tes
existait il y a
émotions.
10 ans, il y a 6-7 ans encore peut-être. Aujourd'hui, il n'y en a plus.
Non, mais là, comme tu dis, c'est une telle micro-mécanique. L'avantage qu'on a sur l'autre est tellement fin qu'à un moment, si ta
C'est
régulation
ça, ouais.
émotionnelle, si ta concentration n'est pas au plus haut niveau, tu vas te faire défoncer. Typiquement, sur les coups clés dont tu parlais, sur
C'est ça,
des jours et tout,
t'es
ça
fin.
ne peut pas marcher. À un moment, tu as besoin d'être sharp à 100% focus.
C'est ça, pour ces décisions, tu as besoin. Et donc là, c'est à chacun, en fait, Et tu le vois d'ailleurs, c'est marrant, c'est qu'à ces niveaux-là, chaque joueur a un peu ses spécialités, on va dire, dans l'hygiène de vie, on va dire. Chacun a un peu ses trucs qui fonctionnent pour lui.
Ouais.
Il y en a qui font des trucs que moi je ne ferais pas, moi je fais des trucs que d'autres, ça ne fonctionnera pas, etc. Et là, c'est un peu l'image où en fait, c'est comme une écurie de Formule 1 qui a un véhicule et qui va toujours être en train d'essayer de faire des petits ajustements pour gagner un kilomètre heure. Un kilomètre heure. Et qui va sans cesse, pas sans, enfin, sans cesse dans le sens où tu vas toujours essayer de voir s'il n'y aura pas un truc à améliorer, mais c'est aussi stable dans le temps où, bon, quand ton véhicule il fonctionne, tu sais que tu peux garder ce véhicule et continuer.
Et continuer
C'est un peu la
d'améliorer,
même
quoi.
chose dans le poker où tu essaies de te trouver ton équilibre pour le poker, où vraiment, donc il y a tout l'extra poker aussi, hein, donc ça va être le sport, tes relations, ta nutrition. Tout ce qui va te faire sentir bien
Même la
mentalement,
détente en soi, en
la
fait, bien la
détente en fait
gérer.
partie, exactement. Comment tu vas optimiser ta concentration au moment clé? C'est plein, plein, plein de questions qu'aujourd'hui, quasiment tous les joueurs de poker de haute limite se posent et vraiment travaillent un petit peu dessus, à plus ou moins, avec plus ou moins de sérieux, on va dire. Donnent moins d'importance parce ils sont très talentueux.
J'allais dire, en vrai, ils sont très doués en série, où tu demandes par les Scandinaves, on en voit beaucoup
Voilà.
qui sont naturellement très réguliers, ils dorment bien, ils mangent
C'est
bien, ils
ça.
font du sport, ils sont émotionnellement stables, et
C'est ça. T'en
clairement.
as qui, de base, ils arrivent. C'est pas comme toi et moi. Il y en a qui arrivent vraiment, ils arrivent à leurs 18-20 ans.
Ouais.
Ils sont prêts pour le poker de haut niveau.
Ouais.
Qui est comme tu as dit, c'est une vie d'athlète où chaque petit détail de toi va avoir une importance derrière.
Bah, tu es ton outil de travail. Enfin, c'est comme tu parlais pour la Formule 1, la voiture en elle-même. Toi, tu es ta voiture, hein, donc tu dois
C'est ça.
constamment être sûr que toutes tes
Et
pièces fonctionnent bien et s'améliorent.
là où tu as un danger, c'est qu'en fait, toi, si tu fais pas ces trucs, il n'y a personne qui va jamais rien te dire. C'est toi et toi seul qui prends ces décisions et qui fait tous ces petits tests, qui va chercher à droite, à gauche ce qui
Tu dois être
fonctionne, ce qui ne
actif
fonctionne pas.
constamment.
Voilà, c'est à toi de faire cette démarche. Il n'y aura personne au-dessus de toi qui va te dire fais ci ou plutôt oriente-toi vers ça. Ou qui va te dire bah non, mais là, tu n'as pas fait ça. Du coup, dans 6 mois, tu vas peut-être perdre un peu de.
Exactement, ouais.
Tu vois, c'est aussi abstrait parce que c'est des trucs qui se font sur la durée pour la plupart en tout cas. Et voilà, mais aujourd'hui, ouais, c'est partout dans le monde du high stakes, que ce soit en live ou online.
Mais ça me fait penser, je voulais intervenir, rebondir là-dessus. Je ne sais pas si tu connais Ray Dalio.
Ouais.
Vite fait, j'aime beaucoup ce mec, il m'a beaucoup inspiré pour mon développement perso, la boîte, le poker, la masterclass. Et il dit tout le temps, en fait, ce qui est rigolo, c'est que vous êtes à la fois la machine. Et celui qui améliore la machine. En tant que joueur de poker, tu es la machine, c'est ton
Ok.
cerveau, ton focus et tout. Mais tu es aussi celui qui, comme tu viens de le dire, qui va être responsable de prendre en main le développement de qui tu es pour améliorer ton focus, ta régulation émotionnelle, ton sommeil, etc. Et tu disais, et ça, personne ne peut le faire à ta place, ce qui est 100% vrai, mais j'ai l'impression qu'on peut même intégrer une autre composante qui est, tu peux te faire coacher pour être un meilleur ingénieur capable d'améliorer ta propre machine à toi. C'est-à-dire que finalement, bon, pour prendre un coach mental ou un mentor ou peu importe, il y a quelqu'un qui pourrait dire, ok, c'est pas mal ce que tu fais pour améliorer ton focus, tu trouves tes petites recettes à toi en t'inspirant de bouquins, de machin, mais peut-être qu'on pourrait faire un travail approfondi, et c'est ce qu'on voit de plus en plus qui vient dans le foot, dans le tennis et un peu dans le poker, c'est des gens qui vont t'aider à te dire, ok, je sais bien que toi, tu as besoin d'être performant, que tu travailles à être plus performant, et parce que ça prend du temps aussi, et puis les connaissances prennent du temps à être ingurgitées, même à les trouver, vont dire, ok, tu veux bosser sur quoi? Ton focus, ta gestion émotionnelle, machin, et vont t'aider à être encore plus performant. Je sais pas si ça te parle et à quel point ça se fait dans le monde high stakes
Ouais, ça se
encore.
fait, ça se fait à fond dans le monde high stakes. Chacun prend des coachs un petit peu dans des trucs très exotiques.
Ah ouais?
Ouais.
Du genre?
Bah, du genre les bains d'eau glacée, admettons. Tu vois, tu peux prendre un coach là-dedans parce qu'il y a beaucoup de gestion émotionnelle là-dedans, mais presque à un niveau moléculaire à nouveau,
Bah
où
ça,
en
c'est pas
fait,
prêt, ça, pour le
derrière.
coup, c'est prouvé scientifiquement,
Voilà,
clairement.
c'est ça,
Mais
c'est ça.
c'est rigolo.
Donc, tu peux prendre des coachs là-dedans, c'est exotique. T'as qui prennent des coachs de méditation. Enfin, ça part vraiment un peu dans tous les sens.
Voir en
Où il...
chaman avec Bryn Kenny pour
Voir
faire
en
les...
chaman, exactement.
pour
Donc,
ceux qui n'ont
t'as
pas la
tout un côté
référence.
science, en fait, mais t'as aussi un côté.
Parfois un peu trop
T'as
ésotérique.
aussi un côté très ésotérique et c'est à toi un peu de trouver ton équilibre. Bon, en réalité, les joueurs de poker, généralement, aiment bien les datas et la science. Donc,
Carré, quoi.
ça s'oriente beaucoup vers ce qui est prouvé par de la data, ce qui est backé par de la
Exact.
data. Mais t'en as qui vont aller dans des trucs un peu plus exotiques.
Whatever works, comme on dit, quoi.
Voilà, voilà,
Ok.
voilà. Et ouais, c'est ça, c'est le cas.
C'est génial. Il faudrait faire une immersion, tu vois, dans ton groupe de travail un jour. Peut-être
Ah,
ça
ça
vaudrait le
peut être
coup.
fun.
Du coup, en termes de structure de travail à proprement parler, imaginons que demain, voilà, tu te prépares pour faire ta meilleure performance. Je sais qu'en plus c'est le cas, parfois tu vas jouer en heads-up, typiquement, buy-in 50 000 euros sur la table, tu vas jouer pendant, je sais pas, 10 000 mains, 20 000 mains, le même adversaire, sur des mois en fait. Quand tu es dans des phases de performance intense comme ça, comment tu structures ton travail si tu dois être au top en gros quoi?
Moi, avec le temps, j'ai trouvé en fait un système qui me va, qui fonctionne bien, qui est huilé, où j'ai plus réellement besoin de réfléchir ou de trop l'ajuster. Alors, je fais encore quelques petits ajustements, mais on va dire que toute la structure est bonne et moi, j'exécute. Et donc, bon, bah, ça va être mon taf, ça va être le sport, nutrition, la vie sociale. Tout est fait de manière carrée, sans hasard. Pour ce type de match notamment, je coupe plein de choses extérieur qui pourrait un petit peu me distraire pour n'être que concentré sur ce match ou
Ta performance pourrait
sur la
être au top,
performance
quoi.
en fait, sur ce moment-là, pour jouer mon meilleur poker en fait.
Et c'est ça qui globalement, en fait, j'ai l'impression que tu as une approche très macro, ce qui fait en fait parfaitement sens, mais c'est ton premier pilier de la performance, de la concentration. Ça va être avoir tout ce process qui est carré, qui fait que tu n'as pas à te poser des questions sur comment organiser tes journées, quand tu dois faire ci ou ça. Et ça te porte. Et après, naturellement, en fait, quand il y a ce cadre, tu as l'impression, alors c'est peut-être aussi l'expérience, mais d'être performant et concentré. Comment tu gères ça, ta performance et ta concentration, quand tu sens qu'elle fluctue un peu? Comment tu navigues là-dedans?
Bah là, pour le coup, j'essaie de m'auditer très rapidement là-dessus. Très, très fréquemment. Je vais à peu près voir comment je me jauge en concentration. Et si je vois que je suis trop bas par rapport à ce que je dois être à ses limites. Parce qu'à nouveau, en fait, si à ces limites-là, t'es pas concentré et que tu n'avais qu'un tout petit avantage sur les autres, et bah, si tu n'as pas ta concentration maximum, tu es très certainement un joueur perdant ou alors tu es bien moins gagnant. Enfin, voilà, ça devient très proche et très brouillard. Donc moi là-dessus, j'essaye d'être très lucide sur mon propre niveau, même si des fois, voilà, c'est dur et ça peut faire mal à l'ego, de dire, ah bah là, j'ai très mal joué pendant 2 semaines. Ça fait 2 semaines, je fais n'importe quoi. J'exagère, hein,
Oui,
c'est très...
je suis dans ma moins bonne performance
Voilà.
classique, quoi.
Voilà. Pas avoir peur de se dire, bon là, là, il y a un truc qui va pas, il faut que je réajuste quelques systèmes. Mais par contre, ouais, d'avoir un système en place qui te permet de pas tout le temps mettre de l'énergie mentale
C'est ça.
sur des trucs, en fait, bon, ça fait 12-13 ans que je joue maintenant, même si ce n'était pas tout en pro, bah, au fur et à mesure du temps, tu dois trouver un système qui fonctionne pour toi. Et ça
Ouais,
va être
bien sûr.
différent pour chaque joueur. Je le vois autour de moi, il y a des joueurs qui fonctionnent de manière très différente, mais c'est ce qui fonctionne pour eux.
C'est ça, c'est ce que j'étais
Voilà.
avec le fameux Whatever Works, qu'on entend tout le temps en monde anglo-saxon. Nadal n'a pas la même prépa qu'il met dans son meilleur mindset que Djokovic,
C'est
que.
ça, c'est ça,
Et
c'est ça. Ouais.
je sais pas ce que tu en penses, je sais pas si c'est discuté en Hightext. Je pense à la fois que c'est encore trop sous-évalué, d'ailleurs, même pour des joueurs débutants. D'ailleurs, c'est souvent dans les moments où on apprend, on a le plus besoin d'apprendre et de progresser, que la structure macro t'aidera le plus. Genre, ça, c'est vachement pour aussi sur le sommeil, le sport, l'alimentation. Avoir un cadre bien carré, ça permet de faire exploser ta capacité d'apprentissage, ton automatisation des processus. Donc, d'ailleurs, tous les joueurs débutants au poker qui nous écouteraient, ou enfin, pas du tout débutants, même amateurs confirmés ou quoi, un des plus gros impacts que vous pouvez avoir rapidement, c'est de prendre votre hygiène de vie en main. Mais c'est quand même encore en friche, non? Il y a toujours des choses qui se découvrent. Donc, est-ce que toi, t'as pas peur des fois presque de faire trop un carcan et de rester dans la fameuse zone de confort et dire ah, peut-être je devrais aller pousser plus. Comment tu trouves cet équilibre en, tu vois, sans trop te challenger tout le temps et garder cette stabilité sans non plus perdre de l'edge potentiel parce qu'on va découvrir que telle ou telle autre chose améliorerait ta performance.
Ouais, tout le côté hygiène de vie a une importance, mais le côté technique, stratégique du jeu en a une autre. Les deux sont liés. Moi, je vois vraiment comment je me sens à la table. C'est vraiment ça mon point de référence. C'est comment je me sens à la table.
Ton aisance technique et de jeu,
C'est ça, mon aisance technique, mentale. Comment vraiment je suis dans les situations de jeu? Comment sont mes niveaux de stress à l'intérieur? Et c'est ça qui me sert de point de référence. Si je vois que j'arrive dans une situation de jeu, je suis beaucoup trop stressé, ou alors ça m'est arrivé plusieurs fois, mon cerveau n'arrive plus à.
il
Cerveau
frise quoi.
freeze. Cerveau freeze complètement, ça m'est arrivé quelques fois. Et là, tu sais qu'il y a un problème.
Comment tu le sens? Parce que parfois c'est trop. Enfin, plein de joueurs, moi, quand j'ai en coaching mental, ils me disent, ah, mais j'y arrive, c'est trop tard, je ne me rends pas compte, ça fait 2 heures, je fais n'importe quoi. T'as un process
Bah,
ou c'est vraiment l'habitude?
ça va souvent être trop tard.
Oui, c'est toujours un peu trop tard, mais comment tu fais pour essayer d'être présent à tes émotions et tes ressentis en direct, entre guillemets? Tu as un petit tips ou toi, juste, ça a pris l'habitude d'être présent?
Non, là j'ai. Ouais,
Tu t'écoutes, quoi, tu sais
je
t'écouter.
m'écoute, voilà, vraiment, j'essaie de m'auditer de manière très objective. Parce qu'en fait, c'est ça le danger, c'est toujours vouloir se dire, non, là ça va. Non, là ça va. Non, là, ça va. Ou
Ça
alors,
va le faire.
ça va pas, alors qu'en fait, si, ça va. C'est cette voix intérieure, en fait, qui veut te raconter une histoire et auquel bah, tu as tendance automatiquement à croire, à écouter, à lui faire confiance. Donc, c'est là où il faut vraiment être objectif et où j'essaye d'être objectif sur ce que je ressens à l'intérieur. Et si ça va pas, bah, je peux couper une session ou je peux, enfin, je vais prendre des décisions par rapport à comment je me sens à l'intérieur.
Ok.
Voilà, mais c'est assez inconscient, hein, je
Ouais.
dirais, au final.
Je pense que c'est une habitude que tu prends en fait, enfin, avec l'expérience de toute façon. Tu prends l'habitude d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça, question très cliché, et qui m'intéresse toujours et qui intéresse à peu près, je pense, tous nos auditeurs ici, en tout cas ceux qui jouent au poker assez assidûment. C'est quoi pour toi le plus important, le mental ou la technique? Et à quel point tu trouves cette question un peu trop caricaturale
Ouais,
potentiellement?
elle est complètement caricaturale. Mais dans certains cas, ça dépend pour qui on parle aussi, en fait. Donc, elle n'est peut-être pas
C'est-à-dire.
si caricaturale. C'est-à-dire qu'un joueur, par exemple, qui débute, qui ne connaît absolument pas le poker, pour lui, il va falloir qu'il focus un peu plus la technique.
Il y a des basiques à apprendre quand même.
Voilà, il y a des basiques qu'il ne faut pas louper. Donc, niveau technique, tu peux pas faire n'importe quoi. Même si tu es le meilleur du monde en termes d'exécution mentale et d'exécution de
Mais
ton
disons que
jeu.
c'est pas faire un bon 3 bet, un bon range d'open.
Voilà,
Tu seras très serein, très concentré, mais
c'est fini pour
ouais,
toi.
bien sûr.
Donc, à ce niveau-là, la technique va être plus importante. Donc, ça va un peu dépendre d'où t'en es, quels sont tes objectifs aussi. Mais par contre, aux plus hautes limites, les dons ont leur importance. Mais tu peux jamais, jamais ne mettre que les spotlights sur un ou sur l'autre. Parce que dans ce cas-là, tu vas te louper. Sauf si tu es dans une démarche de OK, pendant 3 mois, j'essaie vraiment d'améliorer ça, côté technique ou
Je bosse
côté.
ma
Et
concentration à
OK.
bord, ou bien sûr.
Voilà. Mais sinon, non, les deux sont importants tout autant l'un que l'autre, quoi. L'un ne va pas vraiment sans l'autre, quoi.
Ouais, c'est ça.
Une très grosse technique, mais tu sais pas l'exécuter sous la pression. Parce que c'est ça, être en high stakes aussi. Et même à des limites qui comptent pour toi. Si tu as une bonne technique, mais que ton cerveau freeze et que tu n'arrives pas à bien te souvenir de ce qu'il fallait, à bien prendre en compte les choses, ben en fait, ta technique, elle sert à rien.
Bien sûr.
Elle sert à rien
Elle
du tout.
s'efface en fait face à
Elle
l'intensité des
s'efface
émotions qu'on
complètement
a.
et tu redeviens un joueur complètement lambda.
Le gars qui craque qu'on peut voir sur le terrain au tennis, mais là au
Voilà.
poker, ça, ouais, ça envoie
Au
les jetons n'importe
poker,
comment.
ça va être les jetons vont partir et ça va être une perte directe. Et en fait, dès que tu vas réfléchir à cette main à froid, tu vas voir que tu avais fait n'importe quoi. Et de l'autre côté, bah, si tu as le mental, ce qu'on vient de dire, mais que tu n'as pas la technique, bah, même si tu es très calme et que tes battements de cœur sont bons, ta température corporelle est bonne, tous les signaux sont verts, mais tu n'as aucune idée de ce qu'il faut faire dans cette
Ou même
situation de
en ayant
jeu.
des idées sympas mais qui sont pas au niveau pour
Ou
battre la NL2000 ou
qui
5000,
sont
bah
pas au
ça, ça marchera
niveau
pas.
pour battre la limite que tu joues,
Ouais.
eh ben, en fait, à nouveau, là, c'est le blanc, quoi.
Bien sûr. Et du coup, toi, bah, ça se fait quand même, ça crée une bonne plus qu'une décennie que tu joues au poker avec un plutôt bon parcours. De quoi actuellement, donc tu es le plus fier, ou en tout cas, sans mettre la fierté et l'ego là-dedans, de quoi est-ce que tu es le plus content dans toute cette trajectoire poker, quoi? Pas forcément d'ailleurs un résultat d'argent, hein, je parle, mais qu'est-ce qui est un bel accomplissement pour toi, quoi?
Je pense que c'est de jouer des limites, jouer des tables où il y a 15 ans que je commençais, jamais j'aurais cru.
N'aurais vraiment jamais cru,
Ah
quoi.
non, jamais. Absolument jamais.
Ok.
C'est des tables,
Ça
voilà.
traversait vraiment pas l'esprit un jour je serai
Non,
ce
non.
joueur-là,
Pas
quoi.
du tout, pas
C'était
du
pas
tout.
dans ton champ des possibles,
Ah non,
quoi.
pas du tout. Pas du
Parce que
tout.
tu sais, on dit
Je veux bien
souvent.
te lancer une histoire
Non, mais justement, moi,
manga et tout, mais non,
ah
pas
non,
du
moi,
tout.
je préfère largement parce qu'on dit tout le temps, à mon avis, c'est complètement faux, que pour réussir, il faut absolument avoir dès le départ des ambitions extraordinaires. Et je pense que c'est complètement faux. Ça peut être vrai, ça peut être faux.
Ça peut être vrai, c'est sûr, mais.
Tu vois, il y en a, ils voulaient être présidents, puis ils sont tout petits, ils sont arrivés, on dit, bah voilà, c'est la preuve. Mais bien évidemment, tes objectifs se réévaluent. Donc parfois, au début, tu veux juste être gagnant, puis passer pro, puis passer à ta limite, et ça n'empêche pas de réévaluer tes attentes, tes croyances, ta
Ouais.
vision au fur et à mesure. Donc,
Moi, c'est comme ça, j'ai pas eu cette vision. C'est au fur et à mesure, en fait, d'avancer, où je voyais, bah ok, maintenant je peux jouer cette table. Je peux jouer cette table, je peux jouer cette table. Et ensuite, quand je regarde derrière le chemin, je fais, ah ouais, ok. Il y a pas mal de limites qui ont été franchies.
ouais.
Depuis l'étape de 2 euros, quoi, en fait.
Ben.
Mais à cette époque, jamais. Mon but, je me souviens à cette époque, c'était genre de jouer des tables de 400. C'était mon rêve ultime. C'était d'être un joueur de table de 400. C'était ça qui. Voilà, c'était ça mon rêve. Donc là, il y a 15 ans en arrière. Hein.
Ouais, bien sûr.
Et ensuite, petit à petit, tu vois qu'il y a peut-être moyen de faire un peu plus, peut-être moyen de faire un peu plus. Après, oui, tu peux visualiser, ça peut t'aider un petit peu dans certains moments. Mais enfin, c'est pas vrai qu'il faut l'avoir en tête depuis le début. Même si ça peut fonctionner aussi, tu vois. Il n'y a pas de réalité, il n'y a pas de vérité générale.
Bon, ce qui est vrai néanmoins, c'est que, ouais, je suis d'accord, mais c'est que tu as quand même cassé cette barrière de, ah bah c'est possible que ça soit moi en fait, le joueur à ses
Ouais.
limites, ça psychologiquement, c'est, on va dire, la fameuse croyance limitante qui reste vraie, même si je trouve qu'on en fait trop parfois sur les croyances limitantes, mais ça, à un moment, tu t'y es confronté, tu as dit, ah bah oui, moi je peux l'être, et une fois que tu y
C'est ça.
crois, tu peux te fixer
Mais c'est venu assez
l'objectif, tu.
naturellement, tu vois.
Ouais, petit à petit, et.
Et au début, en fait, j'arrivais même pas au point de me dire, bah non, ça, je ne peux pas les jouer. Je me disais juste, non, ça, c'est un autre monde.
Oui, c'est ça, c'est pas pour moi, c'est des
Parce que
génies,
c'était
c'est des
même.
gens hors normes,
Voilà,
ça peut pas
eux,
être
c'était
moi.
des génies qui jouent
Ouais.
ça parce qu'ils jouent ça depuis des années, et c'est tout. Mais
Bien sûr.
j'arrivais même pas au point de me dire, non, moi, je ne peux pas. Ou... Enfin, tu vois, c'était impensable juste
Ouais,
pour
c'est
moi de
ça,
jouer.
c'est moi j'appelle ça vraiment hors de ton champ des possibles, quoi. C'est comme ça.
C'est ça.
C'est des extraterrestres. D'ailleurs, c'est souvent c'est marrant, c'est des extraterrestres. Ça n'est pas
Ouais, c'est ça.
c'est pas possible que moi ça soit le cas.
Ouais, tu les vois
Ouais. Et
comme...
génie, je te dis, hein.
Et il y a du vrai hein, là-dedans. Hein. J'ai rencontré des joueurs qui ont une capacité de computing mental qui dépasse celle de tous les autres joueurs. Donc ces mecs-là, tu les atteindras pas. En tout cas, tu n'atteindras pas leur capacité comme ça de calcul mental. Je parle pas de calcul mathématique, mais vraiment d'avoir tout un tas de data qui rentrent.
Mais un peu
Et
comme le
toi de les
QI, quoi.
ressortir.
Vraiment, il y a des gens, ils ont un QI à 18 ans qui est à 160, 180. T'as beau le bosser, il ne montera pas à
Il montera pas,
180 en
voilà,
termes
c'est
de
ça.
rapidité d'analyse, en
Tu
fait, pas
l'as
d'avoir
bien simplifié,
des
je
bons
peinais à trouver mes
résultats.
mots.
Et du coup, dernière question, la classique, mais néanmoins importante. Quel conseil tu donnerais du coup à un joueur qui serait un peu dans la situation que tu as traversée ben, jeune, j'aime le poker, je veux progresser, c'est un peu flou, je ne sais pas encore où je veux aller, mais en tout cas, j'ai envie peut-être d'arrondir mes fins de mois, ou je sais pas, à la fin de l'année, avoir 1000 euros pour me payer un bon tournoi live à 500 balles, faire la fête, peu importe. Voilà, ce genre de profil-là, tu lui conseillerais quoi aujourd'hui, sachant que le poker a drastiquement changé quand même depuis l'époque où tu as commencé?
Ouais. Je conseillerais d'essayer de trouver, enfin, déjà trouver la place en fait qu'ils veulent donner au poker dans leur vie. Et une fois qu'ils ont une idée assez précise, enfin même bien précise de ça, trouver la table, la limite,
Le format de jeu.
le format de jeu aussi bien évidemment, le format, la limite, où ils vont être des joueurs gagnants, tout en prenant du plaisir, et sans que ça leur prenne toute leur vie en fait, sans qu'ils aient besoin de sacrifier toute leur vie pour ça.
D'accord.
Donc vraiment essayer de trouver cet équilibre, ce qui veut dire en fait savoir aussi se contenter de table où on se dit bon bah ça c'est ma limite. Moi je suis un joueur de cette limite, ce qui ne veut pas dire qu'on n'essaiera pas de progresser, mais en tout cas d'être bien, d'être confiant et d'être en paix, à être un joueur gagnant de cette limite, tout en continuant à prendre du plaisir et en peut-être avec la possibilité peut-être plus tard de remonter quelques limites. Mais voilà, de savoir trouver son spot, je dirais. Savoir trouver son spot idéal pour continuer sur le long terme. Si c'est ce qu'ils veulent. Par contre, si c'est une histoire de court terme, pourquoi pas ne tout donner sur 6 mois avec un matelas derrière et une situation carrée pour ne jamais être en danger. C'est la clé. L'ennemi numéro un du joueur, c'est la banqueroute. Peu importe les plans que tu fais, la situation de banqueroute ne peut jamais arriver. Peu importe que ce soit un amateur ou un
Bien
pro,
sûr.
ou un pro de haut niveau, ou un pro de niveau moyen, ou de bas niveau. Donc à partir du moment où tu sécurises ça, bah derrière, juste essayer de trouver la table où tu seras gagnant et où tu t'épanouis. Et
Et
voilà.
pendant ce temps, la bankroll, elle monte, la progression, elle continue, la confiance, elle s'engrange, et après, on se posera peut-être des questions
Et
plus
après,
sérieuses,
voilà.
mais ouais,
Ça arrivera
exactement.
après. Mais pas commencer, je conseillerais pas moi de commencer dès le début à se dire ah bah, je veux jouer des tables de 1000. Ça c'est mon objectif et je ne serai satisfait que si j'atteins les tables de 1000. Là c'est le meilleur moyen pour, à mon avis.
Prendre des risques stupides, se
Ouais,
griller,
ouais, ouais.
exploser en vol en burn-out ou finir par se broke, prendre des décisions trop risquées
Parce
pour
qu'en
sa
fait
vie
c'est
aussi.
possible d'arriver aux tables de 1000, mais il y en a qui auront des prédispositions, d'autres qui seront à l'opposé des prédispositions, je ne sais pas comment on dit. Et du coup, ça va être extrêmement compliqué pour eux d'atteindre ça. Donc, il faut savoir juste profiter du voyage. Voilà, on va finir sur une note philosophique. Il faut savoir profiter du voyage.
Ben écoute, c'est parfait comme mot de la fin. Merci Boris, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. J'espère que
Merci à
t'es
toi pour
heureux de
l'accueil.
cette première interview. Et puis, je sais pas quoi te souhaiter. Quoi te souhaiter, Boris?
Quoi me souhaiter? Bah, une réussite dans les tables et hors table. Voilà,
Ce sera le mot de la fin
assez simple.
alors. Merci beaucoup.
Merci à toi pour l'accueil.
J'espère vraiment que vous avez kiffé cette interview qui a demandé beaucoup de travail pour la faire en live, la filmer et la monter. Mais si ça vous plaît, j'essaierai bien sûr d'en faire d'autres. N'oubliez donc pas le lien du webinaire qui est dans la description où on vous présentera le jeudi 5 janvier à 20h notre challenge une année pour crush les MTT. À très vite.